Vous écoutez France Culture. Conférence de l'Université populaire de Michel Onfray, le génie de l'hédonisme, 8e année, la fabulation freudienne, Sigmund Freud.
Bonjour. Nous avons eu l'occasion la dernière fois d'examiner la carte postale qui consiste à faire de Freud un libérateur de la sexualité. On a eu l'occasion d'en examiner un certain nombre. Et il se fait effectivement que le freudo-marxisme, qui a beaucoup fait pour la réputation de Freud dans les années 60-70 en France, n'a pas grand-chose à voir, et on le verra l'an prochain, ça, avec le fond même de la pensée de Freud, qui elle-même était cette pensée conservatrice, réactionnaire, sur le terrain des mœurs et sur le terrain de la politique. On le verra dans la prochaine séance, mais sur le terrain des mœurs, on va le constater cette fois-ci. Je voudrais vous parler d'onanisme, de phallocratie et d'homophobie. Donc tenez-vous bien, il sera question de ces trois sujets dans l'œuvre de Freud, dans la pensée de Freud, car il existe chez Freud une critique obsessionnelle de l'onanisme, de la masturbation, qui est assez singulière, eu égard à son savoir, à sa lucidité concernant la répression sexuelle. J'ai eu l'occasion de vous dire qu'il avait bien compris que la sexualité était réprimée dans le dispositif judéo-chrétien et que 20 siècles de christianisme, ça fait du mal à la sexualité. Freud le voit, le sait, dit pourquoi, explique à partir de Nietzsche comment ça marche, pourquoi il y a une répression nécessaire des instincts, comment la répression des instincts est constitutive de la construction d'une société ou d'une civilisation et comment on ne peut échapper à ce genre de choses. D'aucuns, les fameux freudo-marxistes, diront qu'on peut échapper à ça et qu'on peut toucher à la société, changer la société, modifier la société pour faire de telle sorte que la sexualité soit plus facilement vécue. Freud, lui, considère que, pessimisme intégral, on ne peut rien faire sur ce sujet-là, on ne peut pas changer la société, et qu'il est de la sexualité, dans la finalité ou dans la fonction de la sexualité, d'être réprimée. Elle est faite pour ça, d'une certaine manière, nous dit Freud. On aurait pu imaginer donc qu'il soit tolérant sur la question de la masturbation, qui est en fait une sexualité de substitution, une sexualité substitutive dans la mesure où elle ne fait de mal à personne, on ne voit pas pourquoi elle mériterait les foudres ou les attaques de Freud, des freudiens et de la psychanalyse. C'est assez singulier parce que entre le 25 mai 1910 et le 24 avril 1912, il n'y aura pas moins de 11 séances consacrées à la question de la masturbation. 11 séances, c'est beaucoup. Ce qui veut dire que c'est problématique. On imagine bien que c'est problématique dans l'esprit de Freud, que c'est problématique dans l'évolution de sa propre pensée, qu'il y a quelque chose qui signale plutôt des problèmes chez Freud que des problèmes dans la société ou dans la civilisation. N'empêche qu'il faut voir ce qui s'est dit au cours de ces 11 séances. La position classique, je dirais, sur la question de la masturbation, elle est tout à fait incarnée par le docteur Tissot, qui a fait des ravages avec un livre qui s'appelait « L'onanisme » et qui était sous-titré « Dissertation sur les maladies produites par la masturbation ». C'est un docteur qui, au XVIIIe siècle, nous a dit « pique-pendre » de cette pratique que personne n'ignore dans cette salle, je pense. Et il nous dit, le professeur Tissot, que ça fait pousser les oreilles, les pieds, que ça rend bête, sot, stupide, que ça fait diminuer le cerveau, la matière grise. Enfin, c'est sidérant, cet ouvrage. Et de fait, c'est ce qui est mis en avant comme hypothèse, comme thèse, prétendument scientifique, à savoir la masturbation est problématique, elle occasionne des dommages intellectuels et des dommages physiques. Vous avez un beau livre de Kempf et Aron qui s'appelait « Le pénis et la démoralisation de l'Occident » qui travaille sur cette question, dans l'esprit d'un Michel Foucault, travaille sur cette question de la répression de la sexualité et notamment de la répression de la masturbation chez les adolescents. Et dans toutes les écoles, dans tous les pensionnats, dans toutes ces configurations pédagogiques où on enferme des jeunes, des enfants ou des adolescents, eh bien on a toujours pensé effectivement que la masturbation était gravement problématique et qu'elle endommageait le cerveau des enfants qui s'y adonnaient. Ce qui est assez singulier, vous allez le voir, c'est que Freud se contente bêtement de reprendre les thèses de Tissot et les thèses dominantes sur ce sujet-là. La première séance, elle est clairement intitulée « Discussion sur les effets nocifs de la masturbation ». Voilà, les effets nocifs de la masturbation. Il y a une espèce de sophisme chez les psychanalystes, mais ils sont assez doués pour ça, qui consiste à dire qu'ils ne critiquent pas la masturbation en tant que telle, mais qu'ils critiquent les fantasmes qui l'accompagnent. C'est un sophisme parce qu'on voit mal comment on pourrait séparer aussi clairement une pratique et les fantasmes qui accompagnent cette pratique. Défendre la pratique tout en critiquant le fantasme qui l'accompagne. On est dans une logique très religieuse, très très religieuse. Le péché est dans l'intention. La faute est dans l'intention. La culpabilité et la faute, ça ne se trouve pas tant dans le geste que dans la mauvaise pensée qu'on aura pu avoir. Peu importe le geste, c'est l'intention qui est la vôtre, et qui est coupable. Donc on culpabilise au plus profond de l'être. Freud nous dit, et vous verrez que j'ai plutôt tendance à dire sans preuve, mais bon, je vous apporterai les preuves ou je vous présenterai les hypothèses de preuve de Freud, et vous verrez que c'est assez singulier. Il associe l'anonisme, à l'inceste, à l'homosexualité et à la perversion. Donc, quand il y a de la masturbation, il y a le désir de s'unir aux parents du sexe opposé, donc de coucher. J'entends bien, hein, parce que quand on parle d'Édipe aujourd'hui et qu'on me dit « oui, mais enfin, Édipe, ça existe tout de même », etc., je dis « attention, s'il s'agit de nommer un sentiment édipien, le sentiment qu'un petit garçon peut avoir pour sa maman ou une petite fille pour son papa avec un sentiment de tendresse, ça, c'est pas le complexe d'Édipe chez Freud. Il faut dire très précisément les choses. Le complexe d'Édipe ne nomme pas la tendresse qu'un enfant a pour le parent du sexe opposé. Le complexe d'Édipe manifeste ce désir qu'a tout enfant de s'unir sexuellement avec le parent du sexe opposé. C'est quand même ça, le complexe d'Édipe aujourd'hui. Alors, je veux bien qu'on l'ait totalement dilué et qu'on appelle le complexe d'Édipe ce qui n'est pas complexe d'Édipe chez Freud. Chez Freud, très précisément, c'est ça. Désir d'union sexuelle avec le parent du sexe opposé. Freud nous le dit, quand il y a masturbation, il y a désir de coucher avec sa mère, vous allez voir pourquoi et comment, fantasme d'homosexualité et fantasme de perversion également. Si vous ne vous en souvenez pas, c'est-à-dire si vous n'avez pas l'impression qu'avec ce geste, vous manifestez un fantasme incestueux, homosexuel ou pervers, c'est évidemment, vous connaissez la mécanique désormais, parce que vous aurez refoulé ces sentiments-là, ces sensations, ces émotions qui sont des vérités, nous dit Freud. Quand vous vous masturbez, vous l'ignorez peut-être, vous ne le savez peut-être pas, mais vous désirez vous unir aux parents du sexe opposé. Pourquoi ne faut-il pas se masturber ? Une séance qui est consacrée à cette aventure, et j'ai répertorié les causes que nous donne Freud, en disant voilà pourquoi il ne le faut pas, les causes à sa critique, il nous dit que c'est un acte antisocial. L'individu s'oppose à la société, il montre que dans cette aventure, il n'a pas besoin de la société. On a juste envie de dire à Freud que c'est un acte qui ne se fait pas contre la société, mais sans elle. Et on ne voit pas pourquoi il faudrait que la sexualité, elle s'accomplisse avec la société, dans, par et pour la société. C'est un acte privé, intime, même si la société s'arroge un droit de regard sur la sexualité de tout un chacun, en la condamnant, en la criminalisant, en l'autorisant, en la défendant, en la légalisant, etc. Il n'empêche qu'on est dans le registre de l'intimité et que l'homosexualité ne peut pas être condamnée parce qu'elle serait un acte antisocial, opposé à la société. C'est quand même une drôle d'attaque. Autre critique, c'est un acte trop simple, nous dit Freud. Dans la masturbation, on s'habitue à ne plus faire d'efforts pour séduire et pour plaire. On pourrait aussi dire à Freud, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait préférer les complications ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait compliquer les choses quand c'est si simple, puisqu'on n'a d'autorisation à demander qu'à soi-même, et que la plupart du temps, on est plutôt consentant dans ce genre d'aventure. Donc on sait qu'on ne va pas se prendre un râteau, normalement. Effectivement, c'est simple. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce soit compliqué ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait que nous jouissions de ce qui est compliqué et que nous nous interdisions les choses simples ? Pourquoi est-ce que ce qui est facile est détestable et pourquoi est-ce qui est difficile serait au contraire désirable ? Il nous dit que c'est un acte déréalisant. Le sujet met le réel au second plan. Il se contente de fantasmes et d'imaginaires. Peut-être, mais là encore, cette façon singulière de dissocier les choses en considérant qu'on peut séparer, que la masturbation n'est pas critiquée en tant que telle, mais à partir des fantasmes qui l'accompagnent. Et vous verrez tout à l'heure, avec les plaisirs clitoridiens ou le plaisir vaginal, il y aura cette espèce de dissociation de papier, une espèce de dissociation théorique qui lui permet de dire « ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça je garde, ça je ne garde pas », sur des problèmes qui sont des problèmes globaux. Et on ne peut pas séparer comme ça en disant « mais il y a d'un côté la masturbation avec des fantasmes, et puis de l'autre côté, une relation sexuelle dite normale, dans laquelle le fantasme n'entrerait pas en ligne de compte ». Qu'est-ce qui permet à Freud de nous dire que le fantasme n'est jamais que dans la relation de soi à soi. Il y a évidemment du fantasme et de l'imaginaire dans la relation sexuelle classique. L'érotisme est là pour ça. Il est là pour jouer des fantasmes, de ses propres fantasmes, des fantasmes de l'autre, de les réaliser, de jouer avec, de faire de telle sorte que ce soit partie prenante et constitutive du jeu amoureux et du jeu sexuel. Mais Freud considère que le fantasme n'est associé ou associable qu'à cette sexualité mauvaise. Et puis, on pourrait aussi poser la question à Freud, pourquoi est-ce qu'il faudrait préférer un réel déprimant à un imaginaire réjouissant ? Après tout, si on a du plaisir avec l'imaginaire alors qu'on n'a pas de plaisir avec le réel, pourquoi est-ce qu'on devrait s'interdire un plaisir imaginaire ? Tous les plaisirs sont bons dans la mesure où ils ne nuisent pas à autrui. Et cette espèce de condamnation implicite de l'hédonisme en soi pose évidemment problème. Il nous dit, bien sûr, donc on y arrive, que c'est un acte hédoniste. Et qu'en tant que tel, le mot apparaît sous la plume des gens qui rédigent les rapports des minutes de ces rencontres des psychanalystes, c'est un acte hédoniste. Il est difficile ensuite, nous dit Freud, d'accepter les restrictions nécessaires imposées par la vie conjugale. De fait, si on est marié, si on a une femme, un mari, des enfants, si on est dans la conjugalité, on est obligé de consentir à une espèce de sexualité hygiénique, simple, simpliste, sommaire, pas forcément réjouissante. Si l'érotisme est extraordinaire parfois ou de temps en temps, au quotidien, il ne l'est pas forcément, il est peut-être un peu moins, et de fait, il faut composer avec ce genre de réalité, alors que dans la masturbation, on n'est pas tenu par ces espèces de restrictions hygiéniques que le couple ou la conjugalité impose la plupart du temps. Mais même chose, on pourrait rétorquer à Freud, pourquoi le plaisir serait-il indéfendable parce qu'il serait plaisir ? Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait dire « ça n'est pas bien justement parce que vous aurez du plaisir ». Autre motif de critique, c'est un acte régressif, nous dit Freud, qui nous renvoie au moment de notre enfance la plus intime, aux stades sexuels qui sont les premiers, les stades sexuels dans lesquels se constitue une identité, dans lesquels se constituent aussi les pathologies nerveuses, mentales, l'hystérie, les phobies, les angoisses ou ce genre de choses. Freud nous dit, souvenez-vous, il le dit dans les trois essais sur la théorie de la sexualité, qu'il y a un certain nombre de stades et que nous sommes censés passer du stade oral au stade anal, génital, anal, phallique, etc., jusqu'à ce que nous arrivions au complexe d'Édipe et période de latence. Enfin, il vous explique comment il y a un développement sexuel normal et comment il y a aussi un développement sexuel anormal. Donc dans la masturbation, il y a ce désir de se fixer sur des moments particuliers de la libido, de l'évolution de la libido, et ces moments-là sont des moments régressifs. Ça nous renvoie à notre prime enfance, et ça n'est pas une bonne chose, nous dit Freud une fois encore. Là encore, on pourrait lui demander pourquoi la sexualité ne devrait pas renvoyer à des moments constitutifs de notre identité sexuelle dans notre propre enfance, et nous savons très bien que si nous avons un certain nombre de fantasmes, ces fantasmes s'enracinent dans les plus hautes, dans les plus anciens moments de notre psyché, dans les plus hautes couches sombres de la psyché de tout un chacun. Si on a des fantasmes qui ont à voir avec l'anal, le génital, le phallique, l'oral ou ce genre de choses, eh bien c'est bien parce qu'il y a eu effectivement des moments pendant l'enfance qui ont été ceux-là pour tout un chacun et qu'il y a pu avoir tel ou tel traumatisme dans tel ou tel stade et qui auront pu constituer ces traumatismes des désirs particuliers, des fantasmes particuliers. On sait ce qu'est aujourd'hui la généalogie d'un fantasme, capable de déconstruire un fantasme et de voir où il s'enracine, dans quoi il s'enracine, comment il a prospéré. Et c'est toujours évidemment la prime enfance. C'est un acte également antinaturel, nous dit-il, en particulier chez les femmes, puisqu'il a un caractère masculin. Il considère effectivement que la masturbation renvoie au clitoris, le clitoris, on va le voir tout à l'heure, renvoie au pénis, que les femmes n'ont pas. Donc, effectivement, c'est antinaturel, ça n'est pas une bonne chose. quand les femmes se masturbent, elles sollicitent en elles une partie qui n'est pas la bonne partie. Et on ne voit pas pourquoi. Il y aurait une bonne partie et une mauvaise partie. Pourquoi il y aurait un bon vagin et un mauvais clitoris? Puisque c'est dans cette perspective-là que Freud s'installe. Mais on va revenir sur ce propos quand il s'agira de voir ce qu'est la pensée de Freud sur le terrain du féminisme et de la phallocratie. Voilà donc, quand on a ramassé l'ensemble des reproches effectués par Freud sur cette pratique, on découvre effectivement qu'il nous dit la masturbation n'est pas une bonne chose parce que c'est un acte antisocial, simpliste, déréalisant, hédoniste, régressif et antinaturel. Donc c'est une charge lourde qui est portée contre une sexualité qui est celle de tout le monde. Rappelons-le, on ne peut pas dire qu'il y aurait des gens qui se masturbent et des gens qui ne se masturbent pas. Il y en a qui se masturbent plus ou moins souvent, plus ou moins fréquemment, plus ou moins longtemps. C'est l'affaire de tout un chacun. Mais cette façon de condamner une sexualité qui est une sexualité généralisée est une façon singulière de procéder pour un prétendu libérateur des mœurs et de la sexualité. On pourrait donc dire à Freud également qu'il n'y a aucune raison pour que la sexualité soit sociale, compliquée, réelle, triste, adulte et naturelle, puisque ce sont des choses qu'il faut opposer à Freud, puisqu'il trouve que c'est antisocial. Alors pourquoi est-ce que social ce serait bien? Pourquoi est-ce que le simplisme ce serait pas bien et que le compliqué ce serait mieux? Pourquoi est-ce que le déréalisant est condamnable et que le réel ce serait mieux? Que l'hédonisme ce serait détestable et qu'il faudrait l'idéal ascétique, la chasteté ou la virginité? Enfin, ce sont des questions qu'on peut légitimement poser à Freud, qui se manifeste ici comme un anti-hédoniste radical, à l'évidence. Quelques petites considérations pour lui rendre justice, puisque deux ou trois reprises, il y a des psychanalystes qui disent tout de même qu'on peut sauver un peu l'onanisme, qu'on peut le défendre, parce que c'est une sexualité substitutive, et qu'en tant que telle, elle est meilleure, elle est moins dangereuse, on dira, qu'une abstinence pure et simple, parce que l'abstinence pure et simple, elle est généalogique de pathologie, de névrose. Et si, effectivement, on a une sexualité de substitution, eh bien, c'est mieux que rien, nous disent les psychanalystes autour de Freud, parce que rien, ça peut être plus catastrophique encore. Elle réduit la puissance sexuelle, cette pratique aussi, et chez certains, c'est important. Vous avez des libidos plus ou moins importantes chez tout un chacun. Vous avez des gens qui ont de fortes libidos, d'autres des libidos moyennes, et d'autres des petites libidos, puis certains pas de libido du tout, certains sont des obsessionnels. Et pour certains, il y a besoin de recourir à ce geste-là, qui sera l'occasion donc de réduire la puissance sexuelle. Elle permet aussi, la masturbation, de se consacrer à d'autres tâches. Ça, c'est une thèse qu'on trouve chez Lucrèce. Quand vous lisez de la nature des choses, Lucrèce nous dit que y a des bordels pour ça, et puis qu'il y a aussi, on peut se donner un coup de main, si je peux utiliser l'expression, et si ça vous travaille à ce point, eh bien voilà, la chose est réglée, et 30 secondes après, vous allez pouvoir assister à un cours à l'Université populaire de Caen, ou à toute autre activité qui vous conviendrait et qui vous permettrait de passer à autre chose. Elle évite également, et c'est important à l'époque parce qu'il faut compter avec ça, les fameuses maladies sexuellement transmissibles. Vous savez qu'il y a à l'époque que la syphilis fait des ravages et que c'est la grande pathologie du siècle, enfin l'une des grandes pathologies du siècle. Donc ça permet aussi de réduire les maladies sexuellement transmissibles. Ceci dit, indépendamment de cette petite défense, Freud nous fait savoir que ça reste une pathologie. Donc entrons un petit peu dans le détail de l'analyse, puisqu'il nous dit que c'est une pathologie, qu'elle renvoie à l'inceste, qu'elle renvoie à l'homosexualité et qu'elle renvoie à la perversion. La séance du 22 novembre 1911, et 1911 c'est important, c'est-à-dire que le mot psychanalyse date de 1896, ça veut dire que la psychanalyse elle existe depuis un petit moment, et que Freud nous fait savoir que la psychanalyse, elle soigne, elle guérit. Il nous le dit en permanence. Il nous fait savoir que le dispositif, qui est le divan, qui est l'attention flottante, qui est le discours, l'association libre, vous connaissez l'histoire désormais, tout ça soigne, tout ça guérit, nous dit Freud. Et on constate que en 1911, ça soigne toujours pas, ça ne guérit toujours pas, et vous allez voir avec quelle technique il résout, entre guillemets, le problème et le problème entre guillemets également, car ça n'est pas un problème. La masturbation n'est un problème que pour Freud et ses amis, mais on ne voit pas pourquoi elle poserait autant de problèmes. Il nous dit que le vrai problème de tout un chacun, c'est l'incapacité dans laquelle nous nous trouvons à avoir véritablement une relation sexuelle avec notre propre mère. Ce qui est assez singulier, c'est que Freud parle toujours de lui, et qu'il parle toujours donc du petit garçon, il parle toujours de l'homme, et qu'il oublie que la moitié de l'humanité est quand même aussi constituée de femmes. et que cette prétention à l'universel, elle est déjà entamée par le fait qu'il est dans une posture d'homme. Il est dans une posture de mâle dominant, il est dans une posture masculine. Et quand il donne quand il propose ce genre de choses, il nous donne des affirmations qui sont typiquement masculines et qui ne conviennent même pas aux femmes. C'est-à-dire, on pourrait même imaginer que ça puisse convenir, mais là, même avec l'autre moitié de l'humanité, on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. Donc c'est l'impossibilité de la relation sexuelle avec la mère, nous dit-il, donc il faut entendre avec le parent du sexe opposé, si on veut lui donner crédit, qui fait qu'on va générer des pathologies. Donc l'inceste est bien, comme je vous le dis depuis le départ, le grand problème de Freud. C'est son grand problème, c'est sa pathologie personnelle. Il a ce désir, depuis qu'il invente le complexe d'Édipe, et il nous dit en permanence que le problème de l'humanité, c'est ça. Et si les petits garçons pouvaient s'unir sexuellement à leur propre mère, alors ce serait parfait. Il n'y aurait plus de pathologie, il n'y aurait plus de problème, il n'y aurait plus de névrose, il n'y aurait plus de neurasthénie, etc., etc. Il est proposé dans cette discussion-là spécifiquement, un portrait du masturbateur. Et c'est assez singulier de voir ce qu'est le masturbateur pour Freud, parce que voilà, il a l'impression qu'il y a un masturbateur dans la civilisation et que les autres ne le sont pas. Donc le masturbateur, il a peur des réunions. Donc c'est pas vous, puisque vous êtes là avec moi. Il a tendance à la solitude. Il manifeste une méfiance excessive. Adolescent, nous dit-il, il manifeste une aspiration morbide à la véracité. Donc si, adolescent, vous avez une passion pour la vérité, c'est que vous êtes un petit branleur. Il est friand d'amitié authentique, il est sans spontanéité, il craint d'être observé par tout le monde. Il y a un truc assez drôle, parce qu'il nous dit également, dans certaines occasions, il ne peut pas se servir de ses mains. Ça me paraît un peu normal. Le masturbateur a la manie de se sacrifier pour quelque chose, et il est soit égoïste, soit hyper altruiste. On ne prend pas de risque, comme ça vous dites, soit il ne pense qu'à lui, soit il ne pense qu'aux autres. Bon. Et il y a également des dispositions louables chez le petit branleur, c'est donc l'inclination à la vertu ou à une perfection morale particulière. C'est également le choix d'une profession dans les sciences pures. Les matheux, sachez-le. C'est également la propreté du langage. Si vous avez un langage châtier, si vous ne parlez pas comme un chartier, c'est que vraisemblablement vous en êtes. Le masturbateur manifeste une aversion pour tout cynisme. Il a une passion pour fixer des dates. Si vous êtes secrétaire de direction, c'est pareil. Il a peur de l'impuissance, il surestime la fondation de la famille, et chez les filles, la masturbatrice a peur de perdre sa virginité et de ne plus pouvoir avoir d'enfant. J'espère que vous vous reconnaissez dans ce portrait. Chaque onaniste, nous dit Freud, incarne en fait deux personnes, sa première nourrice, la mère, et lui-même. Séance du 6 décembre 1911, on en arrive donc à cette question, onanisme et inceste. Quel est le rapport entretenu entre onanisme et inceste ? Freud nous dit, et je veux vous citer la phrase entière parce qu'elle mérite d'être entendue, il nous dit « Si l'on conçoit l'acte donnant dans un sens symbolique, il signifie qu'il a donné son sperme à la mère, terre, mère, son péché, et donc un inceste. » J'espère que vous suivez bien la démonstration. Et il considère que Onan est donc l'inventeur de la pratique, d'où l'onanisme, et il se masturbe et donc envoie son sperme sur la terre. Mais comme la terre, c'est la mère, eh bien, en se masturbant et en balançant son truc là où il l'envoie, c'est avec sa mère qu'il copule. Son péché est donc, je souligne le donc, hein, son péché est donc un inceste. Onan, en envoyant son sperme sur la terre, commet donc un inceste. Ce qui est assez singulier, c'est là qu'on voit fonctionner la pensée magique de Freud. C'est que cette histoire, quand vous regardez cette histoire dans la Bible, elle est très précise. Et dans la Bible, on vous dit très précisément que Onan a donc une belle-sœur qui a perdu son mari, c'est-à-dire qu'Onan a perdu son frère, et Dieu demande à Onan qu'il s'unisse à sa belle-sœur. Et c'est parce qu'il refuse cet inceste, c'est-à-dire s'unir à sa belle-sœur, Freud n'a pas refusé lui, hein, enfin, et c'est parce qu'il refuse de s'unir à sa propre belle-sœur qu'il gâche son sperme en l'envoyant sur la terre. Donc c'est-à-dire que le texte biblique nous dit très précisément que Onan commet ce geste pour éviter l'inceste, pour éviter un inceste réel, et Freud nous dit, retournement de situation, pensée magique, quand Onan fait ça, il le fait parce qu'il veut s'unir avec sa mère. Il est dans une logique incestueuse, puisque la terre c'est la mère. On a déjà eu cette assimilation. Une chose n'est jamais ce qu'elle est, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, c'est le principe de la pensée magique chez Freud. Eh bien là, c'est la même chose. La Terre n'est pas la Terre. La terre, c'est la mer. Donc, effectivement, le bon laboureur qui ouvre la terre ou qui fend la terre avec le soc de sa charrue, eh bien évidemment, il couche avec sa propre mère. C'est ce que Freud avance comme hypothèse pour nous dire donc que, à chaque fois qu'il y a masturbation, il y a inceste symbolique. Voilà la démonstration de Freud. En 1911, on n'est pas dans les débuts de la psychanalyse, on n'est pas dans les moments où on doute, on cherche, on ne trouve pas. On est dans des affirmations, on est dans des certitudes. Un certain nombre des très grands livres de Freud, ou prétendus grands livres de Freud, sont parus. Et là, on affirme ce genre de choses. Quand Onan envoie son sperme sur la terre, c'est parce qu'il couche avec sa mère. Séance du 23 novembre 1910. Freud, cette fois-ci, examine la question de la culpabilité associée à l'acte sexuel et associée à l'onanisme. Il nous dit que la culpabilité n'a rien à voir avec la religion. Souvent, effectivement, on dit, et là encore, quand on dit Freud, grand athée, grand négateur de Dieu, certes, mais enfin, il faut tempérer toutes ces choses-là. Freud nous dit que la culpabilité n'a rien à voir avec la répression infligée par le judéo-christianisme. La culpabilité, elle a à voir avec le fameux mythe scientifique dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, le mythe scientifique qu'on découvre, mythe scientifique entre guillemets, c'est l'expression de Freud, qu'on découvre dans Totem et Tabou, qui est le meurtre primitif, la horde primitive, le père qui dispose de la totalité des femelles, les enfants, les fils, qui, pour lui disputer les femelles en question, tuent le père, puis mangent le corps du père, et puis après la manducation du corps paternel, il y aura la généalogie de la loi, de la société, de la culpabilité. C'est parce que les fils qui ont tué le père pour pouvoir coucher avec les femmes avec lesquelles couchait le père ont regretté leur geste, que la culpabilité aura vu le jour, nous dit Freud. Rien à voir donc avec la religion. Ouvrez les guillemets. Il a été démontré, j'insiste sur démontré, historiquement, j'insiste sur historiquement aussi, que le sentiment de culpabilité a existé à des époques où il n'était pas encore question de religion, dit Freud. Et donc il renvoie à cette histoire du mythe scientifique. Donc quand il y a culpabilité dans la masturbation, vous vous masturbez, vous vous sentez coupable, rien à voir avec la religion qui vous reprocherait votre propre geste. En revanche, il y a à voir avec le fait que nous ayons un jour tué notre propre père et que nous avons un jour mangé le corps du père que nous avons tué parce que nous voulions coucher avec notre propre mère ou parce que nous voulions coucher avec les femelles que possédait le père. Voilà l'explication scientifique, j'insiste sur le mot, donnée par Freud de la culpabilité. Séance du 24 janvier 1912. Je ne sais pas toutes prises, parce qu'il y en a 11, ça fait beaucoup, mais c'est l'occasion pour moi de vous dire ce que j'ai fait savoir un certain temps et là de vous en apporter la preuve, que Freud n'a jamais renoncé à la théorie de la séduction. La géographie nous dit habituellement qu'il pense à la théorie de la séduction, qu'il a travaillé sur un certain nombre de cas, 18, qui n'ont jamais existé. Et puis, comme il nous dit effectivement que quel que soit le problème, la solution, c'est que la jeune fille a toujours été abusée par son père et les garçons aussi, et que ce sont les pères qui, en violant leurs enfants, vont générer les pathologies qui conduisent sur le divan. Effectivement, comme ça pose des problèmes, et que les parents informés viennent demander des comptes à Freud, Freud renonce officiellement à la théorie de la séduction. Eh bien, en 1912, on a la démonstration qu'il n'a pas renoncé à la théorie de la séduction, il a renoncé à l'usage public de la théorie de la séduction, mais il n'a jamais renoncé à la théorie en tant que telle, puisqu'il nous dit que les femmes qui se masturbent réactivent le fantasme du père les ayant séduites dans l'enfance. Quand une femme se masturbe, quand elle se masturbe de manière clitoridienne, nous dit Freud, eh bien, les femmes réactivent le contact sexuel que leur père leur a infligé dans leur propre enfance. Donc la théorie de la séduction, ça marche toujours en 1912. Il nous dit que cette sexualité-là, justement, elle est régressive et qu'elle est infantile pour cette raison-là. Les jeunes filles se masturbent pour retrouver le plaisir qu'elles ont eu d'avoir été abusées par leur propre père dans leur enfance. Séance du 8 novembre 1910, cette fois-ci sur la dangerosité des pratiques onanistes. Je vous livre la phrase, et je pense qu'on n'a même pas besoin de la commenter. L'opinion selon laquelle la masturbation est nuisible est étayée par des observations faites par un critique tout à fait objectif. On connaît l'objectivité de ces gens-là. Hein, selon lequel l'abêtissement ultérieur des jeunes arabes était dû à leur masturbation excessive et pratiquée sans aucune inhibition. L'abêtissement ultérieur des jeunes arabes était dû à leur masturbation excessive et pratiquée sans aucune inhibition. Volume 3 de ces fameux actes, page 62, sans commentaire. Séance du 24 avril 1912. Elle est intitulée « Épilogue de la discussion sur la masturbation » et on ramasse tout ce qui aura été dit dans les 10 séances qui précèdent. Freud nous parle des dommages organiques qui sont infligés par l'onanisme. Il ne nous dit évidemment pas lesquels. Dommages organiques, lesquels, on ne saura pas. C'est donc une pathologie, la masturbation. Comment soigner cette pathologie? Eh bien, il faut aller voir dans une lettre à Ludwig Binswanger, datée du 9 avril 1910, dans laquelle il nous dit qu'il faut utiliser un instrument de torture qui s'appelle le psychrophore, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, une sonde urétrale. Il suffit de l'utiliser d'une manière tout à fait particulière, intromission dans l'urètre donc de la verge de l'homme avec de l'eau glacée qu'on balance par cet instrument, et ça calme, dit Freud, et ça vous guérit, ça vous dispense de vous masturber. De fait, on peut imaginer que vu les dégâts du psychrophore, on a certainement pas envie de remettre la main à la chose avant un bon moment. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, 1910, le divan soigne toutes les pathologies, même les pathologies qui ne sont pas des pathologies. Voilà pour la question de la masturbation. Question de la phallocratie, question de la misogynie de Freud. Je m'appuie sur des textes qui constituent ce qu'on appelle une contribution à la psychologie de la vie amoureuse. 1910, d'un type particulier de choix d'objets chez l'homme. 1912, du rabaissement généralisé de la vie amoureuse. 1918, le tabou de la virginité. Quand je vous dis que ce que je vous propose est plutôt presque inédit, qu'on ne l'entend pas, mon propos, c'est tout simplement parce que l'œuvre de Freud est choisie. Quand vous allez dans une librairie et que vous achetez des œuvres en livre de poche, tout ça a été savamment choisi. On a fabriqué des recueils de textes de manière artificielle pour que vous puissiez disposer d'une vulgate qui, elle, vous propose une légende. Si, en revanche, vous allez voir l'œuvre complète, si vous lisez les 20 volumes, si vous cherchez des petits articles de ce type-là, si vous allez voir sur 10 ou 20 pages ce que Freud peut dire de tel ou tel sujet, alors vous découvrez ce qui est le fond de sa pensée sur ce sujet-là. Étonnamment, tous ces textes dont je vous parle sont introuvables dans les éditions de poche. Il n'y a jamais eu un seul éditeur qui a pris le soin ou le risque ou qui aurait eu l'honnêteté de dire « ramassons ces textes-là ». De fait, ils ne sont pas à la gloire de Freud, mais ramassons-les, ce sont aussi des textes de Freud. Dans « Du rabaissement généralisé de la vie amoureuse », on peut trouver cette phrase. C'est dans le tome 11, à la page 140, dans les œuvres complètes. « Le destin, c'est l'anatomie. » Le destin, c'est l'anatomie. C'est une phrase qui est écrite alors qu'une certaine Simone de Beauvoir a 4 ans. Et qui, elle, dira dans le deuxième sexe, dont je ferai un grand éloge, qu'on ne naît pas femme et qu'on le devient. C'est-à-dire très exactement le contraire de l'anatomie comme destin. L'anatomie comme destin, ça veut dire, mesdames, vous avez un corps de femme et vous serez femme toute votre existence, quoi que vous fassiez, parce que c'est la biologie qui commande, c'est la physiologie qui commande. Vous n'êtes que votre corps. Mieux ou pire, vous n'êtes que vos ovaires, vous n'êtes que votre utérus. Vous êtes déterminé par ça. Et vous êtes même déterminé par ce qui vous manque. Le pénis, c'est ça qui vous manque et c'est ce qui vous guide. Démonstration. On peut démarrer très tôt dans la vie de Freud pour voir où elle est, sa misogynie, où elle s'installe et comment elle est constante. D'abord, dans la correspondance, 15 novembre 1883, il écrit une lettre à sa fiancée, Martha Bernays, et il nous dit « La nature a donné aux femmes la beauté, le charme et la bonté, pas besoin de chercher autre chose. Contentez-vous de ça, mesdames, beauté, bonté et charme, ça suffira bien comme ça. Soyez donc de bonnes épouses, de bonnes mères. L'autonomie professionnelle, l'autonomie financière, c'est pas utile. » Pourquoi faire? Une femme serait-elle autonome? Il traduit Stuart Mill, John Stuart Mill. J'ai eu l'occasion de consacrer un cours à Stuart Mill pour dire tout le bien que je pensais de cette philosophie extrêmement intéressante et de dire le bien que je pensais également d'un très grand livre qui s'appelle « L'asservissement des femmes ». Très grand livre féministe qui nous explique que si les femmes sont socialement inférieures dans une société, c'est parce que la société les a fabriquées comme des inférieures et que si la société produit une éducation égalitaire, eh bien les femmes seront à égalité avec les hommes et qu'il faut tendre donc à des éducations égalitaires. Freud traduit Stuart Mill et considère que ces théories féministes sont détestables. Et il critique la pensée de Stuart Mill sur ce sujet-là. Il nous dit de la physiologie des femmes que c'est une physiologie interrompue par rapport à l'homme. C'est-à-dire que le modèle, pour dire même le maître étalon, si on voulait faire un peu d'esprit, le maître étalon, c'est l'homme. Et la femme, elle est à mesurer à l'aune de ce maître étalon. Et il lui manque quelque chose. La femme, c'est un homme inachevé. c'est un homme inaccompli. Et il nous dit la même chose avec l'homosexuel. L'homosexuel, c'est un homme inaccompli. C'est un homme inachevé. C'est un homme qui s'est arrêté dans son trajet libidinal. Donc les femmes, les homosexuels, sont des gens qui se sont arrêtés en cours de route. Il leur manque, pour la femme, le pénis, et pour l'homosexuel, la possibilité de l'amour par l'étayage. Et on va y arriver. Il nous dit, Freud, qu'il existe un trajet normal. Donc ce personnage qui, quand ça l'arrange, nous dit qu'il n'y a pas de différence entre le normal et le pathologique, il n'y a pas de différence de nature, il y a juste une différence de degré. Quand ça l'arrange, il nous dit qu'il y a quand même un trajet normal. Ce trajet normal, j'ai eu l'occasion de vous en parler, stade oral, anal, génital, phallique, etc. La période de latence, le complexe d'Œdipe, la période de latence, etc. Donc ça, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est que vous ne passiez pas correctement par ces stades-là et que vous puissiez trébucher sur ce... Sur l'un d'un stade, stade oral, stade anal, stade sadique anal, qui va pouvoir générer chez vous tel ou tel comportement, telle ou telle passion. Donc il y a un trajet normal, il s'agit d'aller vers l'hétérosexualité monogame, conjugale et familiale. Un sexe d'homme, c'est fait pour un sexe de femme, c'est pas fait pour sa main, c'est pas fait pour sa bouche ou une autre partie de son organe, c'est donc il faut de la génitalité. Et il faut de la conjugalité, et il faut, d'une certaine manière, viser la procréation. Freud nous dit, voilà, le trajet normal, c'est ça. L'évolution normale d'une libido, ça doit conduire à ça. Un homme pour une femme, et des rapports sexuels génitaux, point à la ligne. Tout ce qui sort de ça, ça s'appelle une perversion. Dans un texte qui s'appelle « Le tabou de la virginité », il nous dit que les femmes émancipées montrent toujours, par leur affranchissement, leur hostilité à l'endroit des hommes. C'est-à-dire que Freud considère que quand une femme revendique sa liberté, elle menace le mâle dans sa superbe, toujours. Si une femme dit qu'elle veut l'égalité, si une femme considère qu'elle doit avoir les mêmes droits, et légitimement évidemment que les hommes, eh bien Freud nous dit qu'elle menace de castration, les hommes. Et c'est une position extrêmement simple qui est la sienne sur ce sujet-là. Il nous dit « le pénis fait la loi et les femmes n'ont pas de pénis ». Donc voilà, toute la misère des femmes, c'est qu'il leur manque ce qui fait à nous, les hommes, notre grandeur et notre superbe. Le phallus, c'est ça la loi, nous dit-il. Et les femmes n'en ont pas, c'est ça leur misère. Je vous cite cette phrase de Freud. « Derrière cette envie de pénis se fait jour maintenant cette rancœur hostile de la femme envers l'homme qu'il ne faut jamais totalement méconnaître dans les relations entre les sexes et dont les signes les plus nets se rencontrent dans les aspirations et les productions littéraires des émancipés. » Il y a donc une infériorité physique des femmes, nous dit Freud, et elle est visible, elle est manifeste dans le premier acte sexuel, pas de chaque femme, mais le premier acte sexuel de l'humanité. L'acte sexuel générateur. Quand le premier homme a sa première relation sexuelle avec la première femme, eh bien, il manifeste sa supériorité physique aux femmes, donc les femmes subissent leur infériorité physique, et l'acte sexuel, eh bien, se passe mal pour elles. Elles ont été abîmées, abusées, maltraitées. Eh bien, leur inconscient garde la trace de ce traumatisme. Votre inconscient, mesdames, est porteur de cette haine du premier homme qui a abusé la première femme. C'est la thèse de Freud qui nous dit que ce ressentiment est transmis de façon phylogénétique. Voilà ce qu'il y a dans l'inconscient. Il y a dans l'inconscient des femmes cette idée qu'il faut faire payer au premier homme l'abus sexuel, l'espèce de viol qu'aura été la première relation sexuelle. Voilà pourquoi les femmes sont dans le ressentiment à l'endroit des hommes et voilà pourquoi elles sont dans le désir de la castration. La question de l'analyse profane, petit texte que je vous lis. La vie sexuée de la femme adulte n'est-elle pas d'ailleurs un dark continent pour la psychologie, un continent noir? Nous avons reconnu que la fille ressent péniblement le manque d'un membre sexué égal en valeur au membre masculin, se considérant pour cela comme de valeur inférieure, et que cette « envie de pénis » entre guillemets constitue l'origine de toute une série de réactions féminines caractéristiques. Si les femmes sont les femmes, c'est parce qu'il leur manque un pénis, c'est parce qu'elles le subissent sur le mode de la castration. Ce manque. Elles n'ont pas eu, elles voudraient l'avoir. Elles courent après ça et c'est ce qui fait que leur problème est là. Tout le problème des femmes, donc, vient de ce qu'elles ne sont pas des hommes, ce qu'on pourrait conclure à la lecture de ce texte-là. Comment fonctionne le complexe d'Œdipe chez les jeunes filles? On a l'habitude de dire que le petit garçon désire l'union sexuelle avec sa propre mère et a envie de supprimer physiquement son propre père. Est-ce que ça marche de la même manière pour les jeunes filles? C'est-à-dire, est-ce que les jeunes filles désirent leur mère? Et où est-ce qu'elles désirent leur père? eh bien, il faut, pour pouvoir montrer que c'est la même chose, mais avec le parent du sexe opposé, que les petites filles désirent leur père et désirent évincer leur propre mère, développer quelques théories, et ces quelques théories, on les trouve dans un petit texte de 1925, quelques conséquences psychiques de la différence des sexes au niveau anatomique, et puis également, en 1931, un tout petit texte aussi qui s'appelle « De la sexualité féminine ». Il nous dit, toujours sur le mode péremptoire, une petite fille désire sexuellement son père. Il nous parle d'un souhait, citation, d'un souhait d'avoir du père un enfant. Toutes les filles veulent être engrossées par leur propre père, elles veulent avoir un enfant du père. La petite fille, ouvrez les guillemets, remarque le pénis, visible de manière frappante et bien dimensionné, d'un frère ou d'un compagnon de jeu, le reconnaît aussitôt comme la contrepartie supérieure de son propre organe, petit et caché, et elle a dès lors succombé à l'envie du pénis. Voilà l'explication chez Freud. Donc, nous dit-il, j'appuie sur le donc, hein, c'est une citation, dès lors, dit le texte très précisément, dès lors, quand le garçon découvre que la petite fille n'a pas de pénis et la petite fille découvre que le garçon a un petit pénis, eh bien, il se passe cette idée que, effectivement, la petite fille désire ce que le garçon a, et le garçon a peur qu'il lui arrive ce qui est arrivé à la petite fille. C'est-à-dire qu'on lui coupe les oui-oui. Voilà ce qui se passe, nous dit Freud. Dans l'abrégé de psychanalyse, il nous dit « le clitoris, c'est un petit pénis caché ». Donc voilà, c'est-à-dire que la femme, elle aurait pu être un homme si son clitoris était aussi gros que, etc. Vous avez compris d'un point de vue anatomique. Il nous parle, citation, « des rudiments rabougris et souvent sans emploi des filles ». Alors sans emploi, si on l'écoute, effectivement, ça doit être sans emploi, il ne faut pas y toucher. Et puisque c'est la part masculine de la petite fille et que cette part masculine elle est détestable, elle est problématique et que une petite fille c'est fait pour être une petite fille et d'une certaine manière cette absence de pénis qui est problématique eh bien est doublée par une autre présence problématique qui est ce petit pénis rabougri. C'est un petit pénis rabougri. Donc déjà vous voyez comment les choses sont présentées, la norme est masculine. Voilà pourquoi on peut parler de phallocratie. De phallus et de pouvoir, le pouvoir du phallus, c'est-à-dire qu'on considère que la norme, c'est le phallus. Et que si on en a un, c'est bien, si on n'en a pas, là est toute la catastrophe. Et on aspire à ce qui nous fait défaut. Conséquences psychiques de la différence des sexes, petit texte également extrêmement intéressant, Freud nous dit que le corps féminin est une créature mutilée. Expression, une créature mutilée. Il y a chez le petit garçon la crainte de la castration. Pourquoi est-ce qu'on vous couperait le sexe ? Qu'est-ce qui fait que ce sexe que vous avez, triomphant, super, magnifique, etc., on va vous le couper ? Quelle raison peut bien justifier ce genre de choses ? Eh bien, on peut vous le couper parce que, et on y revient, vous désirez votre propre mère. Puisque le petit garçon désire l'union sexuelle avec sa propre mère, puisqu'il sait que cette union n'est pas possible ou n'est pas pensable, il sait que s'il manifeste ce désir-là, eh bien, on va lui couper le sexe. Le père va lui couper le sexe. Et le père va être dans la castration. Donc la découverte effrayante du sexe de la petite fille pour le garçon vaut comme une menace. Sous-entendu, voilà ce qui peut t'arriver si tu continues à désirer ta mère. Parce que moi, ton père, je peux te couper le sexe. Et comme se masturber, voir ce que j'ai dit un petit peu plus tôt, c'est aussi désirer sa mère, c'est s'unir sexuellement, symboliquement à sa propre mère, et que tout le monde s'est masturbé, la chose est réglée, une bonne fois pour toutes, puisque tout le monde s'est masturbé, tout le monde a connu le fantasme de la castration. Tout le monde a la crainte de la castration. C'est une punition pour les femmes, nous dit Freud, que d'avoir un corps sans pénis. Le corps est mutilé, les femmes le vivent comme tel, d'où leur ressentiment. Et voilà pourquoi elles sont aussi souvent méchantes et injustes, et incapable de faire fonctionner la raison. Le pénis manquant, nous dit Freud, c'est le désir du pénis manquant. C'est la petite fille qui voit, qui constate que ce que le garçon a, elle ne l'a pas, eh bien elle va se mettre à le désirer. Et Freud commence à disserter sur la blessure narcissique, sur le sentiment d'infériorité, sur la cicatrice, en considérant que ce à quoi aspire une petite fille, c'est d'être un petit garçon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'identité féminine. En tant que telle, l'identité féminine, c'est l'aspiration à être un petit garçon. Cette petite fille, elle peut être dans une logique de déni et dire « si, j'ai un pénis » et transformer effectivement son clitoris en petit pénis de substitution et dès lors, nous dit-il, elle deviendra homosexuelle. Voilà pourquoi une femme devient homosexuelle. Elle a donc le déni de la castration, elle dénie la castration. Elle est dans le refus de l'absence de pénis, et elle transforme son fameux petit pénis rabougri en pénis digne de ce nom, qu'elle va solliciter, et elle deviendra homosexuelle. Donc on comprend bien que dans cette perspective-là, l'homosexualité féminine n'est pas une sexualité normale. Elle est dans la logique de ce que Freud appelle, et ce que je signalais tout à l'heure, une perversion, une fois encore. Face à l'absence de pénis, elle peut aussi rejeter complètement sa sexualité, c'est-à-dire renoncer à la sexualité, et développer un ressentiment contre sa mère et un amour du père. Elle désirera alors à ce moment-là, à l'endroit du père, un enfant. Elle voudra un enfant de ce propre père. Soit elle fantasme sur ce père, qui est l'objet idéal, mais inatteignable. Voilà pourquoi un homme n'est pas possible dans sa vie, puisqu'elle en a déjà un, c'est le père, et voilà pourquoi elle est homosexuelle. Et puis elle peut également vouloir un cadeau de lui, nous dit Freud, hein, c'est le mot qu'il utilise, un cadeau. Renoncer au pénis, donc, et en même temps demander à ce que le père, son propre père, lui fasse un enfant. La femme, ouvrez les guillemets, abandonne le souhait du pénis pour y mettre à la place le souhait d'un enfant et prend dans cette intention le père pour objet d'amour. Donc quand les femmes font des enfants, eh bien la plupart du temps, de manière fantasmatique, l'enfant qu'elles font, elles le font avec leur propre père. Dès lors, et je me répète, mais dès lors, le fantasme, pour utiliser ce mot-là, il est connoté, mais la légende d'un Freud qui abandonnerait la théorie de la séduction se trouve manifeste. C'est une légende. Freud n'abandonne jamais la théorie de la séduction. Elle est totalement constitutive de sa vision des choses. Toutes les femmes qui font un enfant manifestent par là le désir qu'elles ont d'une union avec leur propre père. Le complexe d'Édipe marche donc bien de deux manières, c'est-à-dire que sur le mode masculin, le petit garçon veut un enfant de sa mère, sur le mode féminin, la petite fille veut un enfant de son propre père. Ce développement édipien chez les petites filles, eh bien, va générer des traits de caractère, des comportements. C'est-à-dire que Freud essentialise les femmes, au contraire de Simone de Beauvoir, qui pense effectivement qu'il n'y a pas d'essence. C'est un grand livre existentialiste, le deuxième sexe. Quand on dit l'existence précède l'essence, c'est-à-dire qu'une femme va devenir ce qu'elle voudra devenir, et le destin n'est pas l'anatomie. Le destin, c'est la liberté, c'est le choix, c'est l'authenticité, c'est le fait de se construire comme une femme. Freud dit non, on est construit comme femme du simple fait qu'on a la physiologie d'une femme. Le corps d'une femme vous détermine à être ce que vous êtes. Et le corps d'une femme fait que vous avez des tempéraments particuliers, des caractères particuliers qui essentialisent les femmes. Le féminin, c'est ceci, c'est cela. À savoir, il nous dit, dès lors, ouvrez les guillemets, des traits de caractère que la critique a depuis toujours reproché à la femme, à savoir qu'elle fait montre d'un moindre sentiment de la justice que l'homme, d'une moindre inclination à se soumettre aux nécessités de la vie, qu'elle se laisse plus souvent guider dans ses décisions par des sentiments tendres et hostiles, trouverait un fondement suffisant dans la modification de la fonction du surmoi. Donc Freud avalise les lieux communs de la misogynie. Les femmes ignorent la justice. Voilà pourquoi il nous dit d'ailleurs que c'est même un peu problématique que de les solliciter dans des jurys d'assises. Il nous dit qu'elles indexent leur comportement sur leurs sentiments et sur leurs passions. Donc, pour certaines femmes, c'est assez vrai. Mais pas sur leur raison, ni sur leur intelligence. Dès lors, pas question, nous dit-il, ouvrez les guillemets, de se fourvoyer par la contestation des féministes qui veulent nous imposer une complète parité de position et d'appréciation entre les sexes. Je veux quand même que ces textes-là soient lus pour qu'on en finisse avec la légende d'un Freud qui serait libérateur du sexe, libérateur des femmes, féministe, émancipateur, du côté de la sexualité libérée des femmes, etc. etc. Reich, oui. Marcuse, oui. Eric Fromm, oui. Freud, non. Non. Essentiellement, les femmes sont des créatures mutilées, et quand elles revendiquent l'égalité, eh bien, elles sont dans la menace de la castration. Elles menacent de castrer les hommes dans leur virilité. Dans un petit texte qui s'appelle « De la sexualité féminine », Freud nous fait savoir, une fois encore, qu'une femme, pour être une femme, il lui faut renoncer à la sexualité clitoridienne au profit d'une sexualité vaginale. Plaisir clitoridien au profit du plaisir vaginal. Ce qui est quand même assez singulier, c'est-à-dire qu'on se dit il y a une bonne sexualité, le vagin, une mauvaise sexualité, le clitoris. Le clitoris, il se fait qu'en plus de ça, c'est plutôt facile, et le vagin, c'est plus compliqué. Les hommes sont plus incapables de procurer le plaisir des femmes qui est plus subtil que le leur, et dès lors, c'est assez singulier de voir Freud nous dire que le plaisir le plus facile est condamné, et que le plaisir le plus difficile est présenté comme le seul plaisir. Donc il nous dit, voilà, une femme, elle doit renoncer au plaisir clitoridien et se consacrer tout entière au plaisir vaginal, en sachant très bien que dans une civilisation où il n'y a pas de contraception, où il n'y a pas d'avortement, où on criminalise l'avortement, où la sexualité est toujours menaçante parce qu'on peut toujours se trouver engrossé sans son désir et parce qu'on a déjà 3, 4, 5, 6 enfants, ou qu'on a une sexualité en dehors du mariage et qu'on se retrouve enceinte malheureusement, eh bien Freud sait bien toutes ces choses-là, mais il nous dit peu importe, il envoie les femmes de ce côté-là de la sexualité en disant « c'est là qu'est votre sexualité normale, ce qui n'est pas ça est une sexualité anormale, est une sexualité perverse, puisque c'est une sexualité régressive de petits garçons ». Dans 3 essais sur la théorie de la sexualité, Freud nous dit que le ratage du passage de cette sexualité clitoridienne à la sexualité vaginale est la cause de nombre de pathologies et de nombre de névroses et de nombre d'hystéries. C'est une espèce d'excision ontologique que propose Freud, parce qu'on voit mal comment dans un corps une femme pourrait séparer le clitoris du vagin. Pourquoi il faudrait que cette partie soit maudite, le clitoris, et puis le vagin soit une partie, en revanche, à célébrer. Pourquoi ça, ce serait bien, ça ne serait pas bien dans un corps qui reste un corps total, qui reste dans un sexe qui est un sexe total, entier, global, qu'on ne peut pas séparer ou dissocier. Cette proposition d'une bonne sexualité, comme par hasard une sexualité difficile à obtenir parce que les hommes ne sont pas à la hauteur, et puis d'une mauvaise sexualité, la sexualité qui fait que les femmes peuvent se contenter de ce que les hommes ne leur donneront pas, eh bien, ça fait effectivement ce que je nomme une excision ontologique. Et puis, troisième temps, après la critique de la masturbation, après la critique du féminisme, la critique de l'homosexualité, une espèce d'homophobie ontologique, là encore, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de critique politique ou sociologique de l'homosexuel. Freud a même, à un moment donné, signé une pétition qui décriminalisait, dit-on, moi j'ai pas fait le travail d'historien pour vérifier qu'il a effectivement signé cette pétition, parce que je commence à douter d'un petit peu de tout, mais effectivement, les biographies nous disent habituellement qu'il aurait signé une pétition dans laquelle il aurait proposer la décriminalisation de l'homosexualité. Toujours est-il que moi, je n'ai pas vu le document permettant d'affirmer qu'il aurait signé cette pétition, mais que je vois des textes et que ces textes, on peut les lire ensemble. Il nous dit, dans l'abrégé de psychanalyste, que l'homosexualité est une inhibition du développement. Il y a 2 voies pour un développement normal d'une sexualité, pour le trajet normal d'une libido. Freud nous dit, soit vous avez un amour par étayage, et l'étayage se fait dans l'investissement sur un être qui est près de vous, c'est-à-dire l'être qui vous nourrit, la mère, ou l'être qui vous protège, le père. Et on peut aussi construire son objet libidinal de prédilection, non plus par étayage, mais par amour narcissique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le souci de retrouver un père ou une mère, mais on est dans le souci de se retrouver soi. Et Freud nous dit, tout homosexuel est quelqu'un qui n'a d'amour que pour lui-même. C'est le narcissisme qui est la cause de l'homosexualité. L'homosexuel investit sur lui-même, sur ce qu'il est, sur ce qu'il voudrait être ou sur ce qu'il a été, et c'est lui-même qui est son propre objet. Il s'aime en aimant les êtres de son propre sexe. Ouvrez les guillemets, citation, « La valeur accordée au choix d'objets narcissiques et le maintien de la significativité érotique de la zone anale apparaissent comme leurs caractères les plus essentiels », en parlant des homosexuels. Donc, cette idée que l'homosexuel aurait à voir avec le stade anal, on ne voit pas pourquoi, spécifiquement, ça peut aussi concerner les relations hétérosexuelles, on a l'impression qu'en matière de sexualité, Freud ne connaît pas grand-chose, en plus, mais cette idée qu'effectivement on pourrait criminaliser l'homosexualité comme une sexualité inaccomplie, inachevée, comme une sexualité qui serait régressive, qui renverrait exclusivement au stade anal, comme s'il n'y avait que ça dans la vie homosexuelle ou dans la vie sexuelle de l'homosexuel, c'est du moins la proposition de Freud. Concluons, la femme est un homme inaccompli, pour Freud, l'homosexuel est un type sexuel imparfait. Pour introduire le narcissisme est un petit texte dans lequel il explique que l'homosexuel n'a d'amour que pour lui-même et est incapable d'amour par étayage. Il nous dit « Les homosexuels sont des pervers qui, ouvrez les guillemets, c'est une citation, hein, ne choisissent pas leur objet d'amour ultérieur sur le modèle de la mère, mais bien sur celui de leur propre personne. De toute évidence, ils se cherchent eux-mêmes comme objet d'amour en donnant à voir le type de choix d'objet qu'on nommera narcissique. » Conclusion, donc, sur ce sujet, vous avez vu comment la carte postale de Freud, libérateur de la sexualité, peut être déchirée en mille morceaux. On découvre effectivement quelqu'un qui critique l'homosexualité, qui critique la masturbation, qui critique le corps féminin, qui critique l'aspiration légitime des femmes à l'égalité ou à la parité. De fait, il faut tordre le cou, je dirais, à cette légende d'un Freud libérateur de la sexualité et d'un Freud compagnon des femmes. Je vous remercie. Donc, vous avez trois volumes de Minutes, c'est le sous-titre, de Minutes de la Société psychanalytique de Vienne, le titre étant « Les premiers psychanalystes ». Ce sont trois volumes qui reprennent le détail de toutes ces discussions consacrées à plein de sujets et toutes les séances, les fameuses 11 séances consacrées à la masturbation sont là, reprises dans le détail, qui dit quoi, qui prend la parole, qui explique quoi et comment. Freud attend toujours, il laisse parler, il fait une synthèse la plupart du temps en fin de séance et là on a le propos freudien. Donc le travail que j'ai effectué, je l'ai fait sur les Minutes de la Société psychanalytique de Vienne. Pour Freud, dans l'œuvre complète, dans le tome 10, d'un type particulier de choix d'objets chez l'homme, dans le tome 15, le tabou de la virginité, dans le tome 11, du rabaissement généralisé de la vie amoureuse, tome 18, la question de l'analyse profane, tome 17, quelques conséquences psychiques de la différence des sexes au niveau anatomique, tome 19, de la sexualité féminine, tome 6, trois essais sur la théorie sexuelle, et tome 12, pour introduire le narcissisme. Pour donner un petit peu tort à Freud sur la question des femmes et sur la question de l'homosexualité, on peut lire Michel Ledeuf, L'étude et le rouet, des femmes de la philosophie, etc., au Seuil, un beau livre de femmes féministes qui dit des choses extrêmement intéressantes sur la philosophie, le rôle des femmes dans la philosophie, sur cette incapacité qu'a la philosophie à aller au-delà de la moitié de l'humanité, déjà en tant que telle, parce qu'elle est souvent une philosophie d'hommes, faite par les hommes, pour les hommes, par les hommes. Un petit texte, un joli livre de Jean-Paul Aron et de Roger Kempf, Le pénis et la démoralisation de l'Occident, de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, ouvrage magnifique. Ouvrage magnifique. L'analyse est magistrale et il fallait que ce soit fait par une femme, c'est-à-dire dire un peu toutes les bêtises que les hommes ont pu raconter sur la sexualité, sur la féminité, sur le féminin. Et ça a rendu possible des choses considérables. Et de Didier Héribon, Échappé à la psychanalyse, variation 2, aux éditions Léo Cher. Didier Héribon est homosexuel, on peut le dire, il ne s'en cache pas. Et il fait savoir effectivement que la psychanalyse est homophobe. Voilà, il faut le dire clairement. Et Didier Héribon explique pourquoi et comment, à partir de discours de Freud, des discours de Barthes, des discours de Foucault, on peut penser la question de l'homosexualité un peu autrement, un peu en biais. Voilà pour la bibliographie.
C'était les conférences de l'Université populaire de Michel Onfray. Régisseur son au Centre dramatique national de Normandie, Michael Migne. Prise de son, Patrick Chanteclair, France Bleu Basse Normandie. Mixage, Pierrick Charles. Réalisation, Véronique Villa.